Radio. Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Popcorn Salé. Je suis Arthur, votre général pour la soirée. Je suis accompagné de mon escouade de fiers mercenaires. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Juliette.
Bonsoir.
Paul.
Bonsoir.
Margot.
Bonsoir.
Et Pauline.
Bonsoir.
Et aujourd'hui, mon téléphone m'a lâché en plein milieu de la présentation, mais ce n'est pas grave puisque ce sera tout de même un programme chargé puisqu'on parlera de l'adaptation croisée de Call of Duty et Pokémon Snap Civil War d'Alex Garland. On parlera du Stranger Things Making Kodak Riddle of Fire de Weston Razzouli. Et enfin, on terminera sur le documentaire d'un mec qui aurait pu être injouable au loup-garou mais qui a décidé d'être une des pires raclures du monde entier, l'homme au même visage de Sonia Krolund. Mais avant d'en parler, comme vous le savez, Popcorn va à Cannes et comme sujet d'actualité, on s'est dit que c'était intéressant de parler d'une des annonces récentes qu'il y avait eu autour de ce festival, puisque le mythique studio Ghibli va recevoir une palme d'honneur collective à Cannes cette année, une nomination à plus d'un titre exceptionnel, puisque c'est déjà la première, enfin, puisque c'est un studio qui avait été absent de toutes les sélections officielles du festival de Cannes, et également c'est la première fois qu'un collectif va recevoir une récompense à Cannes, une palme d'honneur qui plus est. Et avant de vous laisser parler sur vous, pourquoi vous êtes peut-être intéressé par cette palme d'honneur. Moi, ça m'a un peu intrigué, puisqu'en général, on donne la palme d'honneur à des cinéastes ou des acteurs, actrices qui sont plutôt en fin de carrière. Varda, Eastwood, Harrison Ford, par exemple, en ont eu. Et moi, je me dirais, est-ce que c'est pas fait finalement un mauvais augure pour le studio Ghibli, puisque on le sait qu'il traverse depuis plus d'une décennie une période assez compliquée et qui est de plus en plus dépendant de sa figure titulaire Hayao Miyazaki, alors que celui-ci s'éloigne de plus en plus de la réalisation malgré la sortie récente du Garçon et du Héron, son dernier long métrage. Je voulais savoir vous ce que vous en pensez un peu de cette récompense.
Moi j'avoue que j'ai été assez circonspecte à cette annonce parce que j'ai juste pas trop compris pourquoi effectivement récompenser le studio Ghibli alors qu'il y a des réalisateurs qui sont plutôt jeunes dedans et pas Miyazaki par exemple. On aurait pu y penser vu l'ampleur de son œuvre. Je pense que ça peut le mériter. Enfin, c'est pas pour réduire le studio Ghibli à Miyazaki, mais c'était juste plus une incompréhension de ma part. Pourquoi cette palme là collective, j'avoue que je comprenais pas trop. Et puis effectivement, ça sonne un peu comme je sais pas une j'allais dire une cloche de détresse, mais c'est pas le mot, mais un chant du cygne, exactement. Merci Arthur. Un chant du cygne pour le studio Ghibli. Après, je pense que le festival de Cannes, niveau connaissance de l'œuvre des studios Ghibli, c'est pas non plus peut-être les plus à même pour eux dire quand ils sont morts ou pas. J'avoue que je pense pas que leur connaissance là-dedans soit la meilleure. Après, j'y connais pas grand-chose moi-même sur la connaissance du Festival Cannes, mais je crois que Paul, tu vas ajouter quelque chose.
Je sais pas. Déjà, parce que Chant du Cygne, vous me dites ça, mais le Garçon et le Héron, malgré sa médiocrité, a fait 3000 milliards de dollars au box-office japonais. Et c'est des projets qui prennent très très longtemps, parce que c'est des films qui sont très très lourds en termes d'animation. C'est pas des équipes qui sont énormes non plus. Ghibli, c'est pas dans les plus grands studios. C'est pas Mappa, c'est pas Madhouse, c'est pas les très très gros studios japonais qui produisent à la chaîne des séries médiocres pour des adolescents attardés. Ça reste à discuter. Et surtout, c'est effectivement... Là où je pense que ça peut être positif potentiellement, c'est que c'est une façon comme une autre de réfléchir à la politique des auteurs, de dire qui est auteur d'un film, et de plus largement repenser effectivement comment on doit penser une œuvre comme celle-ci. Après, une œuvre comme celle-ci, quelle œuvre? Parce que vous l'avez dit, les studios Ghibli, c'est pas que les textes de Miyazaki, surtout ces dernières années et même avant, ça fait 20 ans que tu mentionnais avant qu'on enregistre Isao Takahata, oui, le réalisateur du Tombeau des Lucioles qui est décédé il y a maintenant quelques années. Enfin, c'est un studio qui s'est diversifié de plus en plus et de grosso modo, parce que de loin on a l'impression quand même qu'il récompense Miyazaki, d'utiliser un studio entier pour récompenser Miyazaki, ça me paraît tout à fait insultant pour l'ensemble des artistes qui bossent dedans. Et surtout que la vérité, c'est que je me dis, personne n'oserait jamais faire ça et récompenser, je sais pas moi, les pyramides distribution ou les films du losange. Vous imaginez pas les films du losange recevoir un truc pareil. Donc réfléchissez 20 secondes, il y a bien une différence, c'est que...
Tu m'exagères.
Voilà. Non mais donc c'est quand on exemple les ça c'est dire grosso modo la compagnie entière fait le film, c'est encore plus absurde de récompenser des équipes entières peut-être, mais là mais c'est pas une équipe entière qu'on récompense, c'est une marque. C'est une marque qu'on est en train de récompenser. Et ça, je trouve ça fondamentalement odieux, parce que soit c'est une forme bizarre d'orientalisme, et dans ce cas-là, c'est pas ouf, mais même, enfin, ce genre d'anime, je vais pas aller dans ce genre d'accusation, parce que ça a pas de valeur, mais d'un point de vue purement pragmatique, même si c'était un studio français d'animation, même si on récompensait, je sais pas, Blackpill ou studio d'animation français, la branche de Media One qui fait Miraculous, dont le nom m'échappe, mais je suis sûr que quelqu'un la connaisse, ça serait tout aussi bizarre, parce que les animateurs changent, parce que c'est des studios, ça serait idiot de s'imaginer que l'équipe de Ghibli, elle a pas changé même sur l'année, c'est des jobs qui épuisent les gens, c'est des gens qui sont payés une misère pour dessiner comme des malades, quand on sait comment, quelle est la vie d'un animateur au Japon aujourd'hui, c'est absurde de se dire que les équipes qui sont récompensées aujourd'hui, elles ont quel quoi que ce soit à voir avec même les équipes qui ont réalisé Le Garçon et le Héron. Enfin, c'est fou de faire une chose pareille. Donc ouais, je trouve pas ça très positif, je trouve ça même un peu étrange. Ouais, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, Arthur, tu voulais...
Ouais, c'était même pour nuancer un peu ce que tu avais dit sur le succès du garçon et du film Le Garçon et Léon, alors qui a été un succès hein, vraiment époustouflant au Japon, mais qui masque en fait les difficultés qu'ont studio, enfin les difficultés qu'a le studio actuellement, puisque après Le Vent se lève, qui était du coup marketé comme le dernier film de Hayao Miyazaki et qui avant qu'il ne revienne épisodiquement pour Le Garçon et le Héron, le studio a connu une véritable traversée du désert. Alors on l'avait mentionné, le dernier film d'Isao Takahata, Les Contes de la Princesse Kaguya, est sorti en même temps, mais a eu un échec commercial. Ouais, c'était bien Takahata qui l'avait réalisé, qui a eu des critiques dithyrambiques, mais qui a eu un échec commercial. Souvenir de Marnie, d'Hiromasa Yonebayashi, pardon, qui avait également réalisé Arrietty, a été aussi un échec, alors que moi, pour le coup, c'est un des films que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. La Tortue Rouge était une coproduction, et après, il n'a plus rien sorti depuis 2016, si ce n'est un téléfilm. Donc, le studio Ghibli, il a aussi aujourd'hui une panne artistique qui... Un studio d'animation qui arrive quand même à être très prolifique depuis 30 ans et qui a une panne de maintenant presque 8 ans.
Il y a aussi dans mes souvenirs un problème de détournement de fonds il y a quelques années, assez grave de la part du président, une sombre histoire que je vous encourage à chercher, mais c'est aussi du coup ça a été un coup clair pendant des années, et puis c'est un studio dont on sait que le fonctionnement a été complexe parce qu'il a été à ce point noyauté par Miyazaki et par un petit groupe d'insiders qui commencent à avoir quand même 80 ans et qui s'attachent un peu à leur poste. Et ça a été notoirement très très dur pour certains animateurs de monter au-delà d'un simple poste de responsable de séquence.
Et comme tu le dis, Paul, moi c'est vrai que je trouve ça du coup très bizarre en fait de récompenser les studios Ghibli, parce qu'en fait c'est pas Ghibli qui est aujourd'hui en train de s'éteindre, parce que je pense que le studio va survivre, parce que déjà il a un catalogue complètement fou qui je pense le maintient à flot tout seul, et qu'il va pouvoir après avoir une nouvelle génération qui va arriver et le refaire revivre, j'ai pas de doute là-dessus, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas voulu faire une palme d'honneur à la limite à une génération, tu vois, un groupe nommé de personnes à titre posthume pour Isao Takahata, pour Miyazaki, en fait, faire une palme d'or à une génération plus qu'à un studio. Moi, je trouve en effet que ça n'a pas de sens. C'est comme si on aurait donné un studio à Pixar le jour où Lasseter s'est barré parce que c'était la génération Lasseter, machin, alors que ça n'a pas vraiment de sens puisque les studios ont une vie indépendamment de leurs créateurs.
Bah, même l'option de la palme d'or, enfin, je suis complètement d'accord avec vraiment tout ce que vous avez dit, hein, mais même l'option d'une palme collective, en quoi ça fait sens? Enfin, si on avait donné une palme collective à genre toute la nouvelle vague et pas... Enfin, tu vois?
Non, parce que pour le
coup... En tant que groupe?
Pour le coup, l'animation, ça reste quand même un... Alors, c'est pas le cas de Miyazaki qui réalisait seul, mais ça reste quand même un credo de cinéma. On le voit par exemple dans les films d'animation américains où c'est beaucoup de co-réalisation, beaucoup de travail d'équipe.
Oui, mais du coup, c'est pas le cas de Miyazaki là, donc pourquoi faire ça dans ce cas-là? Moi, ça me semble super juste orientaliste et dire, oh, bah, on file la palme d'honneur à un moment à tout le monde, comme ça, bam, c'est fait, puis, enfin.
Je sais pas, moi, je pense pas que c'est orientaliste dans le sens où, c'est les personnes qui ont créé le studio Ghibli ont quand même donné à l'animation japonaise une certaine partie de leur lettre de noblesse. Alors, c'est orientaliste de résumer l'animation japonaise à ces figures-là, mais qui ont quand même donné un nouvel élan international à ce type d'animation-là. Donc moi, je peux comprendre une volonté de dire on va pas sélectionner une seule personne, mais essayer de, pourquoi pas, innover et de faire un truc groupé. C'est plus le côté studio Ghibli que je trouve plutôt étonnant.
Moi, j'ai rien à ajouter. À part, c'est une décision à la con. Enfin, je oui. Et Thierry Frémont escroc. Mais Thierry, rappelle-moi. Mais enfin, je qu'est-ce que tu veux que je dise.
Mais de toute façon, tu viens pas à Cannes comme moi, toi, donc t'as pas besoin de.
Non, c'est pas complet. Mais je veux quand même qu'il me rappelle s'il a un travail. Je sais pas, Thierry, il est là, il est connecté.
Bref, sur la fin de ce débat, je propose qu'on passe tout de suite au film de la semaine. Et on commence par L'homme aux mille visages, et c'est toi, Maro, qui va nous en parler.
Alors, L'homme aux mille visages, c'est un documentaire réalisé par Sonia Kronlund, donc qui est connue pour être la productrice slash animatrice d'un podcast de France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Et en fait, la genèse, il me semble, de ce documentaire, c'est qu'en fait, elle a été contactée par une femme qui lui a raconté l'histoire de comment elle était tombée amoureuse, elle s'était mise enfin fiancée, tombée enceinte d'un homme qui s'est avéré être un escroc absolu, et qu'en fait, elle a découvert que cet homme-là, d'où le titre Mille Visages, avait en fait toute une myriade d'identités et de compagnes, enfin quelque chose de totalement tentaculaire, et donc elle a décidé d'en faire un documentaire. Et dans ce documentaire, je sais pas si elle se met en scène, mais elle cherche à comprendre comment cet homme-là a pu construire tout ça. Elle va un peu partir sur ses traces, enfin elle va aller en Amérique du Sud parce qu'il est originaire du Brésil, ouais, du Brésil. C'est difficile de savoir avec cet homme car il a vraiment de multiples identités. Et donc voilà, c'est un peu, puis elle va croiser toutes ces femmes qui ont été des victimes, et puis il y en a certaines qui sont incarnées par des actrices, donc ça brouille comme dans tous les documentaires récents la frontière entre fiction et documentaire. Ouais, enfin pas toutes, mais genre les brésiliennes c'est des vraies.
Oui,
mais les françaises. La
plupart, c'est des vraies brésiliennes, mais des fausses françaises.
Exactement. Les françaises sont jouées par des toutes brésiliennes.
Ah, c'est ça.
Juliette, est-ce que tu voudrais nous en parler?
Allez. Moi, j'ai vu il y a un peu longtemps, mais c'est un film qui m'a beaucoup, enfin dont je me souviens assez bien, et qui plus le temps passe, plus je pense que j'ai aimé. Parce que, en fait, je crois que déjà le point de vue de la réalisatrice, t'en as parlé Margot, mais m'a beaucoup plu. Elle cherche pas à s'effacer, en fait, elle va faire un peu comme dans Les Pieds sur Terre d'ailleurs. Enfin, c'est un truc où elle va pas essayer de chercher un espèce de point de vue journalistique qui serait objectif, et où du coup elle s'efface. En fait, elle va raconter l'histoire à travers son point de vue. Même au début, je sais plus si c'est dans le film ou dans le dossier presse, mais elle dit elle-même en fait, mais moi j'aurais pu être une victime de cet homme-là, et c'est ça qui m'a fascinée. Et en fait, du coup, comme on suit vraiment l'histoire de son point de vue, parce que même c'est un peu compliqué dans une telle histoire de trouver un début et une fin. Elle le dit même ça dans le film. En fait, je trouve que construire un peu ce truc-là avec elle, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu. Et même pour, en plus, une journaliste, de se mettre en scène comme ça, de jouer de, enfin, ouais, de son image, parce que, en vrai, Les Pieds sur Terre, c'est quand même, enfin, assez connu. Puis juste, elle, en tant que réalisatrice, enfin, en tant que directrice de ce projet-là, parce que ce projet-là, c'est un film et aussi un livre qu'elle a sorti il y a un an. Je crois que les deux étaient concomitants, à la fois le livre et le film. Mais du coup, de se montrer comme ça, je sais pas, je trouve que ça fait une très bonne introduction au sujet. Et le sujet est complètement fou. Enfin, en fait, je trouve que elle arrive à trouver, enfin, je pense pas que le documentaire ait dépassé par son sujet. Parce que le sujet est super intéressant et passionnant, mais je trouve qu'en fait, elle a le bon angle de mise en scène. Enfin, à un moment, par exemple, au début, le visage, du coup, de cet homme-là est pas flouté, il est blanchi, on va dire, pour l'anonymiser. Et puis, à un moment, en fait, le visage va juste être diffusé pendant, enfin, les journaux vont diffuser ce journal-là, ce visage-là, je crois, dans les journaux, c'est ce qu'elle dit. Et du coup, elle, à un moment, elle va faire le choix de diffuser ce visage-là, de diffuser cette histoire petit à petit, bribe par bribe. Et en fait, on enquête vraiment avec elle. Et c'est aussi un récit sur l'enquête journalistique, sur comment tu trouves des sources, tu parles avec des gens, au-delà du sujet qui est complètement fou, parce que on suit quand même un homme qui a eu genre 5-6 femmes en même temps. Il a eu des enfants avec certaines dans différents pays. Il leur a fait croire qu'il était médecin, enfin 15 500 métiers, il avait plein de noms, mais c'est juste complètement impossible à juste enfin, imaginez, c'est un truc où, enfin, c'est un documentaire, quoi. Et je sais pas, enfin, mais moi, je trouve que justement, la mise en scène sert ce propos-là et elle se fait pas dépasser. Parce que, justement, elle apporte son point de vue, même sur elle, elle questionne son propre point de vue, parce que elle montre bien qu'elle, elle est fascinée, comme nous, on est fascinés d'un point de vue presque voyeur, ça peut aussi mettre mal à l'aise de rentrer dans l'intimité de ces femmes-là, qui ont vécu quelque chose de super dur, et nous aussi de vouloir, bah, savoir qui est cet homme-là. Plus, bah, on le juge nécessairement, et de elle-même, dans la manière dont le documentaire est fait, là, je vais pas vous révéler cette scène-là, mais elle va vouloir un peu comme venger ces femmes-là, et elle va interroger le fait qu'elle veut venger ces femmes-là, parce que c'est aussi une... Bah, elle a rien à voir avec cette histoire, c'est pas la justice, etc. Mais, je sais pas, c'est tous ces questionnements-là où, qui font que je trouve on est vraiment... Enfin, son point de vue nous accompagne dans tout le film, et ça fait que moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé le film, mais je vais m'arrêter de ce flot incessant de paroles. Je sais pas si Arthur, tu veux continuer ?
Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que t'as dit depuis le début. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans le film, t'en as un peu parlé, c'est l'aspect où ce film sert de justice alors que elle le dit elle-même, je suis journaliste, je suis pas juge, je ne suis pas policière, c'est pas mon but de rendre justice, mais on va faire, nous, à notre échelle, une petite vengeance. Et la vengeance en tant que telle, c'est le film. Déjà parce que, alors moi je n'osais pas le spoiler, le fait qu'à un moment elle révèle le visage, mais en vrai, bon, ça arrive au bout de 30 minutes, c'est-à-dire qu'au début, pendant les 30 premières minutes, vous ne voyez pas le visage de cet homme-là, et au bout de 30 minutes, elle dit bah, « fuck it, je vous le montre, hop, et on va se marrer un bon coup, et on va se foutre de la gueule de ce mec-là ». Ce qui est un propos, je veux dire, qui peut être complètement répréhensible. Et alors dans le popcorn sucré d'il y a deux jours, normalement moi je parlais à un moment d'un film alors je ne détaillerai pas pourquoi c'était les filles d'Olpha, mais où je disais que le comportement de la réalisatrice était selon moi immoral, et que pour le coup là ça nuisait au film. Là techniquement à l'inverse, le comportement de la réalisatrice est là aussi complètement immoral, enfin on ne divulgue pas l'anonymité d'une personne qui ne le souhaite pas, et en même temps la vengeance et le plaisir que tu as à te venger. Et parce que le film va aller jusqu'à une vengeance, moi que j'ai trouvé à mourir de rire, enfin, c'est la scène de fin m'a tordu de rire, c'était vraiment une des meilleures scènes de fin de l'année, moi m'a fait adorer ce film-là. Et le côté que le film en fait se transforme, que le film en tant qu'objet soit l'objet de la vengeance envers ce mec-là, je trouve ça vraiment drôle. Ça peut être...
Juste pour te couper deux minutes, mais du coup pour moi c'est pas immoral en comparaison au film, oui, d'Olpha, parce que du coup elle dit ça, enfin dans le film elle dit bah là c'est immoral, et elle argumente son point de vue, ce que pour le coup Kauter Banania fait pas dans les filles d'Olpha, et qui moi je trouve est beaucoup plus problématique.
Oui, non, mais après on pourra lancer le débat sur les mais en tout cas c'est ça qui m'a fait marrer, c'est ce truc de se dire on va utiliser ce film là comme un outil pour lâcher les chevaux et se foutre de la gueule d'un mec qui s'est quand même bien moqué de la face du monde. Et au-delà de ça, c'est un film que en effet je trouve bien réalisé. Alors il y a pas de grandes séquences de mise en scène, ça reste, je trouve, un peu trop télévisuel. Néanmoins, l'histoire en effet est complètement folle, et rien qu'à elle vaut le détour.
Non, bah, je vais peut-être un petit peu nuancer ce que vous avez dit, même si j'ai globalement plutôt bien aimé. Après, j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question de est-ce que vraiment c'est un documentaire qui mérite d'être vu au cinéma, est-ce que c'est un documentaire de cinéma. Et en fait, je pense que, après y avoir un petit peu réfléchi, je pense que c'est quand même un documentaire plutôt, enfin, qui reste de l'ordre de la télévision, et en fait, c'est intéressant, et c'est un bon documentaire dans ce genre-là, mais je veux dire, artistiquement, il y a quand même pas de geste artistique, quoi. Enfin, on peut pas le nier. Même si, moi, Sonia Kronlund, je suis une fan inconditionnelle des Pieds sur Terre depuis de nombreuses années, donc vraiment, j'adore cette femme, et ça m'a trop fait quelque chose de la voir à l'écran, d'entendre sa voix iconique. Bon, peut-être que pour moi qu'elle est iconique, mais voilà. Non, je rigole, je suis pas la seule à écouter Pieds sur Terre, mais. Non, mais après, enfin, ça fait quand même un petit peu parfois un peu réchauffé, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai écouté sans faire exprès il y a une semaine l'épisode où elle interviewe cette femme, une des femmes qui est dans le documentaire, où en fait elle dit exactement la même chose. Donc en fait, il y avait des discussions entières du film que j'avais déjà entendues. Du coup, j'étais un peu en mode un peu chiant. Puis elle a aussi sorti un livre. Tu te dis bon, elle exploite bien son histoire, quoi. Après, effectivement, il y a un regard assez inattendu qui part dans la comédie totale et dans on se fout de sa gueule, qui est effectivement assez inattendu et assez intéressant. Après, je trouve qu'en termes de mise en scène, enfin c'est vraiment de la télé, quoi. Enfin, c'est pas mauvais en soi, c'est juste je suis pas sûre que ça ait sa place dans des salles de cinéma, en dehors du fait que ça soit quand même une journaliste adulée de tous les gens qui aiment le cinéma, je pense. Voilà, après c'est un documentaire qui se regarde bien et qui est marrant et qui est intéressant, et c'est vrai que il y a quand même des moments où en fait tu te dis mais la vie est tellement, enfin la vie est vraiment une vaste blague, genre il y a quand même une des femmes qui s'est fait piéger par cet homme qui est genre psychologue quoi, et la meuf a daté genre le plus grand sociopathe de tous les temps, et tu te dis mais la vie a vraiment plus d'imagination que la fiction quoi, c'est vraiment ce que tu te dis quand tu sors de ce film. Voilà.
Moi, pour te répondre, effectivement, je trouve que la réalisation est, en fait, plutôt simple, mais en même temps, quelle autre réalisation tu peux faire sur, enfin, sur un sujet comme celui-ci? Moi, je trouve qu'en fait, ça marche bien. Et, en fait, enfin, effectivement, je pense qu'il est au cinéma parce que c'est Sonia Kronlund, et si c'était pas Sonia Kronlund, ça l'aurait pas été. Et... Mais en même temps, moi, je pense que, aussi parce que c'est diffusé au cinéma, ça se discute, mais en tout cas, il y a une grande audience, il y a beaucoup de pubs qui sont faits dessus et tout, elle fait une grosse promo, donc, ceci, il y a plus de gens qui ont accès à cette histoire qui est quand même mine de rien fascinante, et moi j'avais pas écouté les, son épisode de podcast dessus ou lu son livre, donc effectivement là on est, voilà, elle fait du gros marketing dessus, je sais pas si on peut lui en vouloir, mais bon c'est sûr que si on a déjà vu le livre, je sais pas à quel point le film rajoute quelque chose, mais en tout cas le film en lui-même, je trouve, moi au cinéma, a permis de me toucher parce que en plus c'était une petite salle et je sais pas, il y a un truc où t'es pris par cette image parce que t'as cet écran de cinéma qui est juste devant toi, et même si effectivement la réalisation, moi je trouve télévisuel c'est quand même un peu fort, parce que quand on voit les documentaires Netflix et tout qui sont faits, enfin il y a des très bons documentaires qui passent à la télé, mais qui mériteraient aussi d'être au cinéma, et pourquoi ne pas les passer au cinéma. Quand on voit les documentaires Netflix qui sont produits, on peut pas comparer ça, enfin tu vois, c'est pas la même chose, il y a pas des personnes qui partent sur fond noir machin, enfin tu vois,
c'est pas pour rien qu'ils sont sur Netflix du coup.
Oui, enfin Netflix c'est, enfin excuse-moi, mais enfin, il y a des bons documentaires Arte, mais il y en a aussi des pas très bons. Enfin,
tu veux dire qu'il y a des bons documentaires et il y a des mauvais documentaires.
Non, mais ça... Oui, mais
bons documentaires, il y a des gens qui parlent et ça parle de la vraie vie. Le mauvais documentaire,
des gens qui parlent et ça parle de la vraie vie.
Non, mais pour moi, il y a un truc où esthétiquement, il y a quand même une certaine recherche, que ce soit, je sais pas, des sur les polices, des titres, il y a des effets. Bon, voilà, c'est.
Ouais. Bah, et alors médecin, chirurgien, je te.
Ah oui, bah c'est surtout la police est un peu dégueu, mais
c'est un peu du comics en MS, hein, on va
dire. Oui, mais en même temps ça reste, ça
dans un film, c'est parti.
Oui, mais ça reste un choix artistique malgré tout.
Moi, je sais pas s'il y a des choix artistiques dans ce film.
Waouh, c'est vivant ça par contre.
Non, mais honnêtement, mais tu vois, je pense que moi, quand je le dis, il y a vraiment rien de péjoratif là-dedans, mais je pense honnêtement que c'est pas qu'il y a pas de gestes artistiques là-dedans, mais c'est pas grave en fait. Enfin, je veux dire, moi Sonia Kronlund, j'adore son travail, et en fait je pense que, enfin je veux dire, son travail c'est un travail de journaliste, mais plus parce que c'est savoir parler aux gens, etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intime et tout, mais est-ce que vraiment c'est un geste artistique ce qu'elle fait dans ce film là je sais pas, et j'en pense pas moins pour autant de ce film. Enfin, je le trouve bien pour ce qu'il est, quoi.
Bah moi c'est vrai que je suis d'accord, mais enfin, moi, je trouve qu'il y a un geste artistique, moi, par la réalisation, disons, l'image, que par la manière dont le récit est narré. Et je trouve que c'est ça qui est bien. Et qui, mine de rien, je trouve, marche au cinéma. Et je pense que le film m'aurait moins touché vu sur un écran d'ordinateur, tu vois. C'est juste ça. Mais, je trouve que c'est dur de dire, il n'y a pas de vision artistique dans ce film, parce que pour moi, l'écriture même du récit, la construction, le fait que, bah, par le montage, elle a aussi tout enfin, je sais pas, il y a quand même une vision, enfin, malgré tout, tu vois, enfin, j'aime pas quand on résume juste, on dit, il n'y a pas de grand geste de réalisation, alors du coup, il n'y a pas de vision artistique, ça me semble un peu réducteur, mais.
Après, si je me permets d'être l'avocat du diable et défendre Margot, on peut dire la même chose de n'importe quel épisode de Colombo, j'ai envie de dire, on peut dire la même chose de n'importe quel texte, en fait, dans une moindre mesure. Et oui, je suis assez d'accord pour dire, par exemple, on avait parlé il y a quelques semaines maintenant de Apollonia. Et tu veux.
Donc, oui, donc je disais, bah, par rapport à Apollonia, que moi j'avais pas spécialement aimé, d'ailleurs, je reconnais quand même que là, il y a un geste artistique, et pour moi, c'est un documentaire de cinéma.
Du coup, je profite que je suis le présentateur pour avoir le mot de la fin, pour dire que peut-être le seul geste de cinéma qu'il y a, c'est l'anonymisation et la dé-anonymisation du personnage et sa stature dans le film, qui pour moi est, je pense, pas la seule réflexion qui est faite sur l'image, mais le seul moment où l'image, on lui donne un propos qui est plus qu'un propos fonctionnel. Moi, c'est voilà. Et après.
On dirait la cravate.
Pourquoi ?
Tu vois pas,
c'est le truc du FN là ? J'ai pas vu encore.
Non, c'est le truc, c'est un vieux docu, mais c'est sur le militant réel. En fait, tu le sais pas avant. En fait, c'est un ancien néo-nazi, le mec, c'est un ancien skinhead en fait. Et tu le sais au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure.
Ouais, c'est pas mal ça.
Et c'est assez malin dans le genre.
Donc bon. Mais on n'est pas ici pour dire qui a sa place ou pas dans les salles de cinéma. On est là pour vous dire si vous devez y aller ou pas. Et mon avis, vous ne devrez pas y aller pour le prochain film Civil War d'Alex Garland. Et je laisse Juliette nous le présenter.
Oui, tout à fait. Alors dans Civil War, on va. Yeah. Civil War.
Civil War. Entre les peuples américains et les restes de...
On va se faire déloger maintenant.
Oui, donc Civil War, c'est le dernier film de Alex Garland et aussi des studios A24 ou A24 pour les anglais, mais en même temps vous n'écoutez pas de podcast puisque on parle en français. Chez
Hello, now you're British
in Melbourne. Et je ne vais pas essayer de faire ce podcast en anglais.
What's the revolution today? It's le transformation aux baguettes. OMG camembert.
Et donc, dans Civil War, on va suivre dans un espèce de futur proche une guerre civile aux États-Unis qui déchire deux camps, dont on ne sait pas très bien d'ailleurs ce sur quoi ils s'écharpent, mais ce n'est pas le sujet du film. Et donc, dans ce conflit-là, on va suivre un personnage qui est joué par Kirsten Dunst qui est accompagné également d'un autre... Donc,
de d'autres personnages.
Voilà. Mon Dieu, c'est insupportable. Voilà, qui ne sont pas joués par Kirsten.
Et ils vont d'un point ou un autre pour aller voir un autre personnage. Exactement. Et celui-là, c'est le président.
Et donc, le personnage joué par Kirsten Dunst est photo-reporter, enfin journaliste. Et donc... oui, reporter de guerre, oui. Dans un contexte, voilà. Et donc, elle va essayer de... En fait... accompagnée de ses confrères et d'une de ses jeunes consoeurs, elle va essayer de se rendre à Washington DC pour faire la dernière interview du président américain qui est censé bientôt tomber. Et donc, elle va traverser le pays. Elle est à New York au début, il me semble.
Donc, elle traverse pas du tout.
Donc, elle travaille pas... un peu, quoi. C'est ça.
Elle fait traverse de Maryland.
C'est ça, elle fait pas vraiment...
Oui, c'est ça. Elle fait de haut en bas la côte.
C'est ça, exactement. Elle traverse un petit bout du pays, on va dire. Voilà. Et ben, il me semble que c'est... Le résumé du film, hein, on va dire. Je n'irai pas plus loin parce qu'honnêtement, je suis trop fatiguée. Je sais pas qui veut commencer.
J'ai d'autres choses à foutre de mon temps. Alors, oula. Faut savoir que moi, j'aime bien Alex Garland. Je trouve qu'il fait un cinéma qui est souvent assez amusant. Il a ses petites obsessions, ses petits personnages féminins vaguement idéalisés, voire avec un côté un peu monomaniaque, chelou, mais ça, je vais pas m'arranger là-dessus. Il a ces espèces de métaphores qui, comme des tumeurs, aspire la vie de ces personnages et enfonce des espèces d'êtres complètement robotiques qui avancent d'une scène à l'autre pour dire des choses très intéressantes sur le monde. Et en fait, je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup Men, son dernier, que j'ai trouvé très très drôle, très inspiré visuellement. C'est quelqu'un qui, on le voit, a une assez grande passion du cinéma de genre et qu'il a montré aussi quand il était scénariste. Il a notamment scénarisé Sunshine de Danny Boyle, qui est un film que moi et Arthur vous recommandons chaudement. Et si vous devez voir un film ce soir, c'est celui-là. Il y a un soleil maléfique. Donc là, il se lance, grosso modo, pour faire Apocalypse Now à la maison. Ce qui est assez littéral, hein, c'est ce que suggère le poster. Et en fait, de là, on se dit, bah, c'est pas très intéressant. Mais en fait, ce qui est intéressant, et là où je vais peut-être un peu défendre le film avant de l'enfoncer avec tout le monde, c'est que je pense que là-dedans, il y a une idée assez amusante qui est de décrédibiliser les États-Unis. Parce que c'est un film sur des reporters de guerre, et que c'est sur des reporters de guerre et la façon dont ils représentent, en fait, les conflits dans d'autres pays. Comment tu représentes une guerre civile en général? Qu'est-ce que c'est une guerre civile? Et comment elle est représentée notamment dans des pays démocratiques comme les nôtres? Et en fait, quand on et ce que le film essaye de montrer et le fait assez bien, c'est que quand on le transplante aux États-Unis, fondamentalement, on montre la même chose. Que, en fait, une fois qu'on se sépare et qu'on met une espèce de lecture libérale sur le sujet qu'on représente, on est juste en train de monter des conflits entre deux opposants dont on saura jamais rien du film, et le film fait très attention à n'en rien dire, sinon que grosso modo d'un côté il y a des fascistes et de l'autre côté il y a une armée de résistance qui est financée par Dieu seul sait quoi et qui a pas l'air beaucoup plus sympathique, et le film ne les montre pas comme beaucoup plus sympathiques. Et c'est là où je pense que le film est assez juste, c'est quand il prend ce point de vue très, il faut le dire, démocrate américain de « Oh mon Dieu, ça a l'air terrible ce qui se passe en Syrie, il faut aider les résistants », mais pas aller plus loin, pas réfléchir aux enjeux géopolitiques de ce dont on parle, et qu'il l'applique aux États-Unis, et qu'il se moque très ouvertement de cette perspective américaine de « Nous, ça serait différent, nous, on a des grands enjeux politiques, nous, on y réfléchit », et qu'en fait, il arrive à trouver quelque chose. Parfois, ça arrive. Parfois, le film arrive à dire ça, et dans quelques séquences, il y a des beaux moments là-dessus sur ce que c'est que d'être un reporter de guerre, quelles sont les responsabilités, surtout quand les personnages n'en parlent pas, parce que le texte est catastrophique, et ça, c'est mon premier problème avec le film, c'est qu'en fait, il est très très mal écrit, les personnages sont des personnages fonction, avec très peu d'intériorité, au-delà de ce qui est nécessaire, et ils servent à suivre justement un arc narratif qui est grosso modo celui-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en dehors de l'image et à quoi l'image va-t-elle servir en général, autant le film en lui-même que les images que prennent ces reporters. Mais ça prend pas. Ça prend pas parce que la structure qu'ils récupèrent, c'est celle de, effectivement, d'Apocalypse Now, mais ils n'arrivent pas à trouver cette ligne qui était si centrale. En fait, je pense que ce film aurait été mieux s'ils étaient tous devenus à moitié fous sur le tournage comme sur Apocalypse Now. Ce qui me permet de vous conseiller un deuxième film qui est Heart of Darkness de Feu Eleanor Coppola, qui est morte il y a quelques jours maintenant. Ouais. La femme de Francis Ford Coppola est réalisatrice du documentaire sur le tournage de Apocalypse Now et qui est d'abord une très grande documentariste, et ce film, je vous le conseille. Mais là, ça manque de quelque chose, en fait. C'est pas tant que je pense que le film est mauvais, il y a plein de scènes individuelles que je trouve assez sympas. Je trouve la scène avec les snipers assez drôle, je trouve la scène avec Jesse Plemons, que je ne vous révélerai pas et dont tout le monde vous dit qu'elle est bien, elle est effectivement pas mal. La scène finale, en fait, à Washington, je la trouve très très bien aussi. Il y a plein de petits moments individuels comme ça qui me font dire le film pourrait être formidable s'il arrivait à trouver un tout, à trouver ce moment précis, ou comme dans Men, comme dans... Même, vous savez quoi, même dans Annihilation, il y a quelques scènes que je trouve pas mal. Le reste est mauvais, mais il y a une scène que je trouve bien. Dans Ex Machina aussi, c'est un type qui tout le temps, et ça c'est le plus terrible avec Garland, c'est que c'est un mec qui n'arrive pas à faire des films entiers. C'est un gars qui a toujours un concept qui est assez fort, qui a des scènes qui sont très fortes, qui a la même, l'espèce de même angle dégueulasse où il floute la moitié de son image avec un effet ignoble pour faire ressortir le visage de l'acteur. C'est toujours le moment où on se dit, qui a une idée géniale, qui s'est lancé dedans, et c'est pas fini. Et pour ça que je suis un peu déçu, parce que j'aurais envie de vous dire c'est intéressant, allez le voir, il y a des belles performances, il y a quelques scènes qui sont plutôt belles, il y a une bonne idée, mais la vérité c'est qu'on en ressort en se disant, mais soit c'est... Enfin, soit on en ressort et on se dit c'est un film apolitique idiot qui sert à certains républicains pour toucher la nouille sur le fait que le pays va exploser, et c'est pas bon, soit c'est un film qui est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, mais qui est fondamentalement infoutu de faire ce qu'il essaye de faire. Et aucune des deux perspectives vraiment, vraiment bonne. Donc il en ressort un film d'action plutôt sympa par moment, mais qui, je suis désolé, peine à convaincre.
Ouais, ben grosso modo, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, moi, j'étais pas du tout familière du cinéma d'Alex Garland. C'est un peu une découverte et une déception en même temps. Après, j'ai quand même envie... Je vais essayer un petit peu de défendre le film. J'ai pas aimé, mais voilà, il y a peut-être quelques trucs à en garder. Je trouve que c'est quand même... Même si, bon, ça prend pas, les personnages n'ont aucune intériorité, ça, enfin, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Mais je trouve que le film a quand même un côté un petit peu fort, c'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai ressenti quand même de la tension pendant tout le long, même si l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça, le récit, voilà, je m'en foutais un petit peu de la fin. Mais j'ai quand même ressenti cette tension et ce truc de me dire, waouh, je suis face à quelque chose de fort et sur certaines scènes un peu insoutenable, quoi, limite. Le film est aussi intéressant, du coup, là-dessus, je pense, mais c'est ce que tu disais, Paul, dans la manière d'interroger notre rapport aux images, et peut-être aussi dans la manière d'interroger notre rapport à la guerre, en disant, bah voilà, en fait, ces images qu'on nous montre, c'est un peu ce que les médias nous montrent, et quand ça se passe, à Gaza en ce moment, ou en Syrie, ou en Afghanistan, bah on se dit, bah oui, ça, voilà. Enfin, on y est limite habitué et insensible, et là, après, je sais pas, aux États-Unis comment ça a été reçu, et peut-être ça a été reçu de manière plus forte par les Américains, mais de se dire, bah voilà, là, qu'est-ce qui se passe si ces images-là arrivent chez nous, et en quoi on y est plus sensible et, ou sensibilisé différemment, quoi. Donc je trouvais que là-dessus, ça ouvrait une réflexion. Après, c'est une réflexion qui n'est pas vraiment aboutie, parce que moi, ce que je reprocherais au film, c'est qu'il n'a pas de parti pris ni politique ni esthétique fort, en fait. On ne sait pas tout à fait ce qu'il veut faire. La guerre, ce n'est pas le propos du film en soi, parce que ben, on ne sait pas de quoi il s'agit. On n'a pas d'infos, on ne sait pas pourquoi les gens se battent. Il y a la guerre de fait. Donc la guerre est un peu un prétexte, je pense, pour servir une forme qui se rapproche d'une forme de blockbuster un peu futuriste, mais voilà, qui n'est pas plus développé que ça. Et ensuite, sur la forme, elle n'est pas non plus... Enfin, elle n'est pas hyper originale. Et puis, après, le problème, c'est les personnages, quoi, qui ne sont pas du tout développés. Parce qu'on se dit, vu que la guerre, qui est le thème principal, est en sous-fond, ça, enfin, ne sert à rien, on n'apprend pas plus, on se dit, bah, du coup, on va en apprendre quelque chose sur le reportage de guerre, sur les personnages, sur leur intériorité. Et puis là, ça pêche complètement, parce qu'on a... les quelques scènes, on a l'impression qu'on va en apprendre plus, mais les dialogues mais sont catastrophiques, quoi. On a envie de lui dire, mais faut réécrire, quoi. Ça va pas. C'est non, on sent qu'il y avait l'idée qu'il a tenté des trucs, mais on a l'impression que c'était des brouillons, quoi, et que le film n'a pas été fini là-dessus. Donc ouais, j'aurais envie de le défendre parce que ça ouvre un peu une réflexion. Et moi, c'est quand même un film qui m'a mis profondément mal à l'aise sur certaines scènes et qui m'a un peu marqué. Donc je me dis, bah voilà, ça, peut-être que ça vaut le coup pour ça, mais au-delà de ça, ouais, j'ai du mal à me faire mon avis parce que je trouve qu'il y a, bah, il y a rien dedans sinon. Je sais pas, Arthur.
Moi, je vais pour le coup pas le défendre du tout. La seule chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est que Jesse Plemons est en train de devenir un crush, parce que quand tu joues un fasciste et que t'as l'air quand même sexy, c'est que finalement c'est que t'es pas si mal fait.
Non, encore une fois, au thème du sexe des nazis, c'est bien, c'est tout. On reste jusqu'au bout.
Mais au-delà de ça, je pense que c'est un film. Je vais être très décousu parce que j'en suis ressorti vraiment très énervé. Il est pas trop mal réalisé. Les scènes de guerre, hormis une scène dégueulasse qui fait vraiment Call of Duty 2005, qui est une des premières scènes de guerre.
Celle où ils sont avec les trois mecs en chemise hawaïenne, là.
Ouais, celle-là, elle est filmée avec les pieds, tu captes. Enfin, c'est une catastrophe. La scène finale en Washington est pour le coup, je trouve, très très bien réalisée. Et c'est là où tu disais, Paul, je trouve que c'est très intéressant, c'est que le film a en effet une idée incroyable, c'est de dire on va faire la guerre civile aux États-Unis. Et dans un monde où on est abreuvé d'images de guerre, et aujourd'hui l'actualité nous en fait encore part, dans des territoires qui sont confrontés quasiment quotidiennement à la guerre, on n'a pas un même rapport quand on voit par exemple des images de guerre à Gaza, des images de guerre dans par exemple aux États-Unis comme nous le présente ce film-là. Et c'était très intéressant de dire quelle est la place par exemple des photojournalistes. Une première objection que j'ai à ce moment-là, si vous voulez représenter un pays qui n'est habituellement pas confronté à la guerre et qui d'un coup est rentré dedans, vous avez déjà l'Ukraine aujourd'hui où c'est le cas. Et moi, il y avait ce même décalage d'avoir un pays qui vivait dans un territoire qui avait été peu touché par la guerre et qui d'un coup il était touché. Et je me demande pourquoi on s'est pas intéressé par exemple sur ce conflit-là, qui aurait pu être, je trouve, plus intéressant, parce que le deuxième problème qu'a le film, c'est de dire, ah, moi je vais vous présenter un conflit armé, une guerre civile, mais je vais pas vous dire les deux camps. Parce qu'en fait, le plus important, c'est que la guerre c'est mal. C'est qu'au final, il n'y a pas de gentils et de méchants dans la guerre. Non, c'est faux. Et même si tu sais, c'était ton propos, t'es obligé au début de nous définir qui sont les deux camps. Et moi, ça, cet apolitisme de base débilissime, je trouve que c'est une erreur fondamentale. Quand vous avez deux camps, quand vous prenez des photos de la guerre, vous ne représentez pas de la même manière, vous n'avez pas le même point de vue en fonction de quel côté vous êtes. Et vous avez forcément un côté. Ça n'existe pas, cette neutralité de base. Je trouve que c'est l'échec fondamental du film de ne pas avoir ne serait-ce pris l'indication de dire voilà, il y a ce camp-là et ce camp-ci, même sans dire si c'est des gentils et des méchants. C'est pas une histoire d'avoir des gentils et des méchants dans une histoire, c'est de savoir qui on filme, de quel côté on est, de quel point de vue on aborde. Ça n'existe pas, cette neutralité. Et encore moins quand c'est des Américains qui filmeraient leur propre pays. Ça n'a aucun sens qu'ils aient une neutralité. Donc là, déjà, le film a perdu.
Après, juste sur ce point-là, je trouve que c'était intéressant parce que c'est un parti pris aussi sur le métier de journaliste. De dire que, bah, en fait, ils filment vraiment d'un point de vue neutre, du coup, ces reporters.
Non, ils sont pas d'un point de vue neutre parce que ils sont, ils sont pas d'un point de vue neutre parce qu'à un moment, ils sont bien avec des soldats, enfin, dans la scène où Arthur disait que c'était mauvais, ils accompagnent bien ces soldats et ces soldats, à chaque fois, ils sont protégés par des soldats d'un seul de même camp. Donc, ils sont pas politiques parce que, si les soldats d'un seul camp les protègent, a priori, c'est qu'ils sont avec un camp, non ?
Bah, après, moi, j'ai l'impression qu'ils se mettaient un peu du camp où ils pouvaient se mettre pour pas se faire tirer dessus par en face, quoi. Enfin, c'était un peu... Moi, j'ai l'impression, justement, que c'était plus parti pris de se dire, bah, en fait, ils s'intéressent pas politiquement à ce qu'ils montrent. Ils montrent vraiment la guerre et la situation sans dire, bah, voilà, eux, c'est le bien ou le mal, quoi.
Et plus largement, je pense pas que le film soit apolitique parce que je pense pas que ses personnages soient apolitiques. Je pense que c'est là où je pense que le film est vraiment prodigieusement mal écrit parce que je pense que du point de vue de Garland, ce dont il essaye de parler, c'est la fabrique de l'image et du narratif par les médias occidentaux qui revendiquent une forme de neutralité ou de compréhension plus large des enjeux. Et pour moi, ce qu'il essaye de faire, et je dis pas que c'est réussi, hein, c'est de dire, grosso modo, ces gens qui se revendiquent apolitiques, déjà évidemment, ils suivent un mouvement, etc., ils représentent, mais surtout l'image qu'ils représentent, elle a un récit, elle existe, elle est visible, c'est juste que ces gens existent dans cette vision-là et que le récit qu'on nous offre, c'est le même récit qu'on nous offre systématiquement quand on parle d'un autre conflit. Et parce que nous, on a toujours ce degré de séparation, on peut s'imaginer que là, et en fait, quand on voit la même chose, quand on nous raconte un truc comme ça, ça nous paraît honteux. Parce que ce qu'on nous montre, c'est un récit qui, évidemment, a des enjeux politiques, mais qui ont été entièrement retirer du récit comme on les retire en parlant, comme on pourrait les retirer en parlant notamment de l'Ukraine. Et c'est là où je pense qu'il y a un point de vue intéressant à avoir de la part de Garland et qui aurait pu probablement tenir si le film n'était pas été écrit avec le cul, avec des personnages, et surtout ça c'est un problème principal, tu parlais, et je te laisse reprendre après Arthur, c'est juste tu parlais du fait que c'est un film qui souvent montre des images absolument abominables. Et oui, effectivement, le film montre des trucs absolument abominables. Mais comme en fait il n'y a pas de personnages, et on s'en fout de ces gens qui sont horriblement froids, cyniques, et qu'effectivement ils continuent à produire des images pour lesquelles, enfin, qui ne servent qu'à renforcer un narratif de guerre qui est détestable, et potentiellement c'est l'idée de Garland, on s'en fout de ce qui leur arrive. La vérité, c'est que fondamentalement, et moi je trouve que c'est ça qui tue vraiment l'attention dans certaines séquences, c'est que je m'en fous de ces gens. Vraiment, tu les vois en train d'errer dans un... Il y a une scène avec un putain de charnier où quelqu'un doit courir dans un charnier pour éviter d'être assassiné, et je m'en bats les couilles, mais je m'en tamponne la coquille, je m'en racle les lunettes. Vraiment, mais c'est fou. Enfin, il y a des images qui sont d'une violence absolument stupéfiante. Et j'ai envie de dire, un des films à la réputation la plus violente du monde, c'est Va et Come and See, Requiem pour un massacre d'Elem Klimov, qui a aussi un charnier qu'on voit dans une demi-scène. Là, il est vraiment, et je peux vous dire que ce charnier, il est infiniment plus violent que celui qu'on voit en gros plan avec quelqu'un qui rampe dessus pendant 20 secondes chez Garland. Parce qu'il y a fondamentalement un problème, c'est qu'il n'arrive pas à réconcilier le fait qu'il n'a pas d'empathie pour ces gens et le fait que il a aussi un récit sur le fait qu'ils vont s'en prendre plein la gueule.
Alors, mais je peux être d'accord avec toi. Moi, je reviendrai sur ce que tu disais au début de la politise. Moi, je pense en effet qu'Alex Garland n'a pas un message débile. Il ne sait juste pas écrire. Mais pour moi, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Parce que, j'ai du mal à développer un peu la pensée dessus. Mais si vous voulez, de dire que le journalisme a un point de vue neutre sur un conflit, et on le voit sur les conflits actuels, c'est faux. Il a un parti pris. Qu'Alex Garland dit « Ah, mais les journalistes prétendent avoir un point de vue neutre, ce qui n'est pas vrai », je veux bien l'entendre, mais factuellement, dans ce film-là, les journalistes ont pour le coup vraiment un point de vue neutre. Vu qu'on ne sait pas, en fait, si, parce que vu qu'on ne sait pas, en fait, quels sont les camps, quelles sont les tensions qu'il y a entre les camps, on ne peut pas imaginer que les... Enfin, on peut pas savoir de quel côté se placent les... Enfin, quelle valeur partagent, en fait, les journalistes avec ces deux camps-là. On ne sait pas avec lesquels ils sont à raisonner. En plus, Garland, il en fait des caisses en disant « Oui, mais ma famille, elle est au fin fond du Minnesota ou de l'Arizona, elle s'en va les reins de cette guerre-là. Donc, je ne suis même pas impliqué dans cette guerre-là, alors c'est mon propre pays qui a feu à sang. » Mais enfin, ça n'a aucun sens. Sinon, mais pourquoi prendre les États-Unis? Moi, c'est mon problème ultime, parce que j'adore... Enfin, j'aime bien les films de guerre, je trouve que ça va toujours être intéressant. Et je trouve que... Non, mais... Oui, excusez-moi, je trouve ça passionnant de se dire, de se plonger dans des dystopies d'effondrement de régime. J'adore... Petite lubie personnage, j'adore les effondrements de dictature. Je trouve que c'est toujours passionnant à lire. Je connais très très bien la page de Wikipédia sur la fin de Ceausescu. Je trouve ça passionnant, les effondrements de dictature.
Et
je trouve ça
tellement précis, la fin
de Ceausescu. Oui, c'est
très... Tu sais quoi, je comprends, parce que moi aussi j'ai une petite phase d'obsession pour la fin de Ceausescu. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe à la fin de Ceausescu?
C'est
horrible.
C'est horrible.
On les tue à la télévision.
On
les
tue tous les deux à la télé et tout le monde regarde, genre. Tout le monde regarde, genre.
C'est hyper morbide, la fin de Ceausescu. Et dans ces films-là qui racontent en fait un peu les fins et les effondrements, moi, s'il y a un film que je dois vous conseiller parce que justement il accepte de perdre un peu cette neutralité de façade, ce serait La Chute. J'ai plus le nom de ce réalisateur, mais La Chute, qui suit en fait, c'est un film qui suit les derniers jours d'Adolf Hitler dans son bunker.
Le truc avec le même.
Avec le même. Oui. Alors vous connaissez le même. 9999.
Voilà, voilà, voilà.
C'est un excellent film parce que justement il se cache pas derrière une neutralité de façade. Il assume de prendre un point de vue qui est un point de vue qui est extrêmement dérangeant. Le point de vue d'Adolf Hitler, enfin le pire point de vue au monde. Le mec, c'est une raclure finie. Et
moi, je pense qu'il faut nuancer ce point.
On coupera parce qu'on a vraiment besoin de financement l'année prochaine. Mais et là, d'un coup, il y avait un truc plus fort, je trouve, de te plonger dans une guerre civile, de prendre le pire point de vue au monde, de dire bah voilà, je vais te faire rentrer en empathie avec ce personnage-là, non pas parce que le réalisateur serait d'un coup devenu fan d'Hitler, non, pour te dire bah voilà, une chute, une fin de régime, c'est horrible pour tout le monde qui va s'y retrouver dedans. Et là, d'un coup, je trouvais qu'il y avait un propos plus intéressant que juste dire, on va prendre les gens les moins impliqués dans le conflit, on va juste leur faire voir des choses horribles, et putain, la guerre, c'est vraiment pas mal, parce qu'au final, c'est ce que dit le film. Et en plus, le film, il est encodé de dire, ah là là, ces photojournalistes qui sont des bandeurs de guerre, c'est vraiment très mal, avec un film qui, je trouve, est vraiment un film bandeur de guerre. Et j'ai pas de problème avec ça, hein. Si tu veux faire un film bandeur de guerre, ça, moi, ça me plaît très bien, j'adore les trucs qui finissent dans la merde comme ça. Non, mais dans le sens, mais je peux trouver des films trop intéressants sur la guerre et tout ça, et je peux trouver des films qui montrent la violence, ça m'oppose pas problème, je trouve ça très intéressant. Mais dire ah là, c'est pas bien de bander sur la guerre quand ton film il esthétise à ce point la guerre, moi je trouve ça vraiment naze. Et après, il y a des scènes d'écriture qui sont horribles. La fin de Kirsten Dunst, je ne spoil pas, mais c'est vraiment une des scènes les plus débiles au monde. Moi je vais terminer, je suis désolé d'avoir été extrêmement brouillon, mais c'est un film qui, moi, m'a énormément énervé parce que je suis d'accord avec Paul, les idées qui sont dedans sont passionnantes et des films de guerre civile. Non, et il y a quelques scènes, encore une fois, la scène de Maison Blanche, mais en fait, moi j'adore plonger des environnements. Non, mais c'est vraiment un truc con, mais j'adore plonger des environnements quotidiens dans des situations qu'ils ne sont pas habitués à connaître. Et
bon, elle est parfaite.
Bien
cadrée, parfaitement bien.
Et représenter Washington, dans cette guerre-là, qui est, je trouve, très réaliste, ça marche très bien en fait. C'est le propos du film, mais complètement à côté. Je laisse Juliette terminer peut-être dessus. Je sais pas si t'as des trucs.
Non, mais alors moi, je connais pas le cinéma d'Alex Garland. J'aime pas les films de guerre et je préfère les films à l'eau de rose comme une petite fille basique. Donc déjà, j'étais mal barrée avec ce film-là. Qu'est-ce que rajouter? Bah, vous avez dit beaucoup de trucs. Oui, en plus, moi, les États-Unis, en fait, c'est pas un contexte que je connais nécessairement vraiment beaucoup. Donc, le truc de l'impact, de voir la guerre aux États-Unis, bah, c'est juste un endroit que je connais pas. Donc, bah, c'est la guerre ailleurs. Oui, la Maison-Blanche, j'ai déjà vu. Bon, d'accord. Enfin, c'est pas non plus, la Maison-Blanche, ça arrive juste à la fin. Sinon, avant, random paysage.
Ce qui est quand même intéressant à repréciser, c'est que Garland, il est pas du tout américain, hein. C'est un cinéaste ouais. Tout à fait britannique, il fait des films britanniques, à part Annihilation, grosso modo, tous ses films, c'était avec, enfin, c'était des films de Brit. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas un réalisateur américain qui écrit sur l'Amérique. C'est un réalisateur anglais qui vient se venger de la guerre de sécession. Et même ça, il arrive pas à le faire.
Bon, voilà, du coup, moi, j'avais pas ce truc d'émotion de voir les États-Unis en guerre ou je sais pas. Ensuite, moi, j'ai quand même du mal avec les films qui sont contre la violence et qui utilisent la violence pour dénoncer la violence. C'est un peu con, mais en fait, le film montre... je pense que ça peut être légitime si t'as quelque chose à dénoncer, si t'as un vrai propos. Or là, bah, le film en a pas. Le film invente littéralement une guerre pour dire regardez comme ils sont méchants et on met même pas d'idéologie derrière pour dire pourquoi ils se battent. Donc en fait, elle est juste là, regardez ces photographes qui prennent des photos de la violence, oh là là, et qui cherchent à l'esthétiser avec, bah, comme ce que disait Arthur, hein, je suis désolée, là, vous avez parlé longtemps, donc je vais faire court, mais reprendre les points qui, moi, m'ont marqué. Mais en fait, surtout que lui, il dit qu'il esthétise pas la violence. Enfin, moi, à un moment, il y a un plan dans une voiture, on dirait une pub pour, où même il y a des fois dans les musiques. On est d'accord. Voilà, oui, mais sa main là par la fenêtre là. Ah non, mais ça me. Voilà.
Moi je pensais à la forêt, mais c'était incompréhensible aussi la forêt.
La forêt quand ça brûle, la forêt.
Mais c'est ce plan-là, il met sa main par la fenêtre.
Il est en train de mourir.
Mais le plus fou, c'est pas ça. Le plus fou, c'est que la forêt elle brûle arbre par arbre.
Oui. Ah oui, c'est
et ça. Le feu il se propage pas. Ça, je ne me l'explique pas parce que c'est pas possible qu'il l'ait pas vu parce que c'est très précis. Genre, il y a des arbres au hasard qui sont en feu, mais pas la forêt, juste un arbre en particulier. De chaque côté, il y a trois arbres et ils sont en feu. Et c'est la métaphore la plus, soit c'est la métaphore la plus éclatée du monde, soit il sait pas comment ça marche le feu. Enfin, il n'y a pas de bonne solution. C'est très étrange cette scène, t'as des particules partout en plus, c'est
après,
dégueu.
S'il a regardé Apocalypse Now, normalement il sait comment ça fonctionne le feu.
Bah ouais, mais surtout. Parce que même la structure du film, elle est calée sur celle d'Apocalypse Now en fait. Le centre du film, c'est le même. C'est un groupe de quatre personnes qui remontent le long d'une rivière pour aller voir un fasciste cinglé et discuter avec lui. Sauf que là, cette fois, effectivement, ils le voient pas. C'est ça le grand plot twist final, c'est que le mec meurt avant. Grosso modo, il a rien à dire. Au lieu de, peut-être que c'est une subversion sur le fait que Marlon Brando monologue pendant 20 minutes. Mais je suis désolé, Marlon Brando qui monologue pendant 20 minutes dans Apocalypse Now, c'est l'un des meilleurs monologues de tous les temps. Si tu veux dire OMG, c'était un peu cringe, tu fais un peu des efforts dans ton film, quoi. Genre. Mec.
Voilà, donc pour reprendre sur l'esthétisation de la violence, elle est plein de dignes de pub pour voiture et même les musiques, c'est des vieilles musiques pop où tu montes des cadavres. Mais
les musicaux sont complètement délirants.
C'est
ça.
Non mais c'est pas délirant parce que je pense que ça va avec un propos de dire regardez
Fallout t'es pas monté comme ça, enfin.
Mais non mais on est d'accord. Et moi c'est ça qui m'a foncièrement dérangé, c'est que même si effectivement comme tu le dis Paul, ça reste en fait c'est violent parce qu'il y a du son, parce que ce qui est montré à l'image est violent, mais effectivement comme
on n'a pas d'empathie avec les personnages, c'est pas si violent que ça, mais il n'empêche que ce que tu prends à l'image plus au son, bah, j'étais au Châtelet Léal, plein le son, c'était insupportable, j'ai plus de tympan à la fin. Et ce qu'on te montre là, c'est genre, regardez là, cette guerre, comme c'est dur, et regardez comme la violence est dure, et les gens, ils meurent, mais c'est tout, enfin, super, le, enfin.
Qui sont pris au Linder et qui ont dû se faire vraiment éclater les tympans à coups de pelle, par contre. Ouais.
Bah voilà. Enfin, moi, c'est quelque chose qui a tendance à me déranger énormément. Et le deuxième point, c'est que moi, j'attendais de ce film une certaine réflexion sur le métier de, bah, de reporter, de photojournaliste, de tout ce que vous voulez. Je trouve que le propos là-dessus est zéro. En fait, t'as pas de, parce que, en plus, parce que du coup, on en a pas parlé, on en parlait hors micro, mais en fait, il y a un personnage qui est un peu central et qui fait un peu le, démarrer le récit, c'est une jeune journaliste qui a la vingtaine, enfin, qui veut devenir journaliste en tout cas, qui rencontre Kirsten Dunst à New York, qui va la voir, qui lui dit machin, vous êtes mon idole et tout, et ensuite, elles vont ils vont l'embarquer avec eux, dans leur voyage, et donc, elle, il y a un peu ce truc de, c'est l'allégorie de Kirsten Dunst, donc tu penses que, va y avoir une espèce de transmission du métier, d'une certaine de réflexion de, et en fait, non. Par exemple, sur la scène dont on parlait de mauvaises batailles dans un immeuble, en fait on voit qu'ils sont, enfin par exemple on voit même très souvent qu'ils sont souvent protégés par des soldats, mais on sait pas quel lien ils ont avec ces soldats, comment ils font pour être protégés, comment ils ont pris les informations. Moi c'est des sujets que j'aimerais voir, parce que du coup ça veut dire qu'ils sont obligés de se positionner, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, et là c'est pas mis, même par rapport à eux, leur positionnement moral, en fait on n'en sait rien, c'est jamais dit, c'est sur l'impact des images non plus, parce qu'on en a pas parlé non plus, mais en fait dans la réalisation il y a des fois où il fait des cuts et où ça fait comme si c'était une photo qui se figeait, où du coup c'est les photos de cette fille-là qui prend des photos à l'argentique en noir et blanc, ça c'est juste très ça n'a aucun impact, c'est juste, enfin une idée qui sert à rien, je trouve, et du coup moi ça m'a vraiment déçue, sur même je pensais vraiment qu'il allait y avoir une réflexion, si ce n'est sur la guerre, au moins sur ce métier-là de ce que c'est, tous les dilemmes moraux, parce qu'il y a des dilemmes moraux qui sont super importants, est-ce qu'on intervient quand on est journaliste, etc., sur des milieux de guerre, ça peut se poser, c'est posé à zéro moment, alors que c'est quand même la base d'une réflexion quand tu te renseignes deux minutes sur ce métier-là, parce que moi j'y connais vraiment pas grand-chose. C'est même pas posé, ça aurait pu être tellement intéressant, enfin il y a des choses à faire quand t'es putain de personnages principaux, c'est des photojournalistes et que c'est ce que tu veux critiquer. Et là, même pas. Donc, bon, voilà. Moi, ça m'a un peu énervé du coup.
Je peux dire avec assurance que Alex Garland a fait 0% de recherche. Recherche, fais-moi confiance, vraiment.
Source, et bien.
Non, moi, un dernier truc, peut-être pour défendre, mais après, je veux pas forcément finir sur une défense de ce film, mais sur la musique. Même si j'explique pas forcément les choix musicaux qui étaient. Bon, pas géniaux, mais l'utilisation de la musique était, je l'ai trouvée intéressante parce que elle permettait de décentrer sur certaines scènes un peu la tension en nous faisant prendre du recul. Moi, ça m'a, moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un peu ce que faisait Scorsese dans ses films.
Non,
passe pas, quand même.
C'est pas très loin. Franchement, c'est pas
très loin. On est presque.
C'est pas complètement ça. Mais vraiment, en fait, on est tellement, déjà tellement reculé par rapport au film. Oui. Enfin, on est acculé, on est dos au mur. Genre, le film peut pas nous pousser plus loin que ça, donc ça sert plus à rien. Mais ça est le plus insoutenable, c'est quand même ce tic que Garland a et qui vraiment, Dieu merci, c'est fini, de filmer des personnages qui hurlent avec un sans-son, sans rien, avec juste un bruit de fond derrière. Et c'est absolument interdit dans tous les cinémas. Lui, il le fait à chaque film, depuis 4 films, et je commence à ne plus supporter ça parce que c'est grotesque, c'est du montage clipesque de merde pour faire le malin, et c'est insoutenable parce que là en plus il le fait plusieurs fois dans ce film là, il le fait plusieurs fois.
Mais en fait, c'est vrai que c'est un film qui est clipesque. Qui critique l'esthétisation de la guerre en étant clipesque. Enfin, on est quand même avec des cadavres. Enfin,
tous les costumes sont comme ça aussi. Enfin, on en a pas parlé, mais il y a la scène avec le sniper. Moi, je l'aime bien, mais les costumes, ils sont complètement à côté de leur pompe. Et même Jesse Plemons avec ses putains de lunettes rouges là.
Non, il est sexy.
Il est sexy, bien sûr. Mais genre wesh quoi. Enfin, même le charnier, il est esthétisé. Genre même le charnier, oui, bah, il est construit.
Bien sûr, la scène de en contre-plongée là du charnier. Non mais c'est.
La dernière fois que j'ai vu un charnier comme ça, c'était dans Hannibal.
Aussi. Ouais. Non mais il y a complètement des incohérences. Enfin moi, il y a un personnage qui meurt. J'ai pas compris comment il meurt parce qu'il se prend un coup de feu, mais on le voit pas. Il n'y a pas un seul plan qui montre.
On le voit quand il
prend la balle.
Oui,
Non, il y a un plan de loin de la voiture, mais moi j'ai pas vu se prendre la balle.
Il se prend la balle.
Oui, mais du coup, moi j'ai pendant tout le film,
c'est un mec qui leur tire dessus et ça coupe. C'est pas absurde de se dire qu'il s'est pris la balle, tu vois.
Je sais pas, moi.
Mais c'est possible, une balle.
Je sais pas parce que. Mais du coup, oui, moi j'ai pas compris parce que quand on voit le gars tirer sur la voiture au niveau des positions, enfin, moi, en fait, j'ai juste pas compris. Ce gars meurt à un moment. Je suis comme, mais moi j'ai pas vu mourir. Comment est-ce qu'il meurt? Et genre, enfin, ça m'a vraiment pris le cerveau pendant 5 minutes. Après, je me suis rappelé que je me souciais vraiment pas de ce gars, donc c'était pas grave. Mais je vais laisser le micro à Arthur qui me tend la main depuis tout à l'heure.
Bref, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur ce film-là?
N'y allez pas.
Eh ben écoutez, déjà, on peut être content parce que Zack Snyder ne le fera pas du coup, et c'est quand même une bonne nouvelle. Non, mais c'est juste, en fait, pendant le film, je me suis dit, si ça se trouve, Zack Snyder a eu la même idée et ça aurait fait un film horrible.
Non, ça aurait été formidable.
Non, formidablement horrible.
C'est parce que tu n'es pas un appréciateur de la Zack Snyder exploitation.
Non.
Tu n'as pas vu les deux parties de Rebel Moon. Tu n'es pas allé voir Sucker Punch au cinéma. Tu ne regardes pas Sucker Punch de temps à autre.
Sucker Punch, je l'ai vu deux fois. Bref. On enchaîne sur le dernier film de notre sélection, puisque c'est
Riddle of Fire.
Bah écoute, qui va nous en parler? Qui le présente? Eh ben, c'est Paul qui va nous le présenter.
Alors.
En plus, il a un nom marrant, le réalisateur. Riddle of Fire est un film sorti en 2023 aux États-Unis et maintenant en salle chez nous et réalisé par Weston Razzouli. Toi, il est marrant, le nom. Ok. Réalisé par Weston Razzouli et qui nous raconte l'histoire de trois petits garnements qui, après avoir dérobé une console Nintendo, mais elle s'appelle Otomo en référence à Katsuhiro Otomo, réalisateur de Akira, je sais pas si vous connaissez, se retrouvent bien malheureusement incapables d'y jouer parce que la maman de l'un de deux d'entre eux a mis un mot de passe sur la télévision. Ils doivent alors trouver un moyen de le récupérer et pour ça, ils doivent faire une tarte aux myrtilles à leur maman. Or, problème, comment trouver les ingrédients? Ils se lancent alors dans une grande course-poursuite dont je ne vais pas vous révéler les hauts et les bas. Non, c'est pas une blague, c'est vraiment le plot du film. Mais ça part en vrille de trois façons différentes, c'est assez drôle. Et ils se retrouvent à rencontrer notamment une quatrième petite fille qui a le pouvoir de contrôler les deux sœurs de sa mère avec des mots magiques, des braconniers maléfiques qui chassent l'esprit de la forêt et encore tout un tas d'autres histoires que je ne vais pas me permettre de vous raconter. Et qui veut commencer à en parler? Juliette.
D'accord, bah c'est moi. Non, mais moi, ce film, c'est une agréable surprise. C'est super perché. C'est vraiment, Paul, t'as résumé le scénario avec brio. Franchement, c'était dur et bravo. Il me laisse un peu sans voix. C'est un petit film, tout petit, mais je trouve qu'il y a plein de trouvailles qui sont très justes. Enfin, déjà, toute cette histoire tarabiscotée, je trouve que ça marche vachement. Et t'es vraiment téléporté dans ce truc de. En fait, c'est pour tout vous révéler le plot. En fait, la moitié du film, c'est ils doivent chercher un œuf et toutes les péripéties qui vont leur arriver. Et c'est quand même des grosses péripéties parce qu'on rappelle qu'ils ont quand même genre 8 ans. Et enfin, bon, pour ce qui va se passer, en vrai, tout ça pour faire tout ça pour un œuf, ça paraît complètement. Pris comme ça, complètement débile. Et en fait, quand t'es dans le film, tu comprends leur motivation et t'es complètement avec eux parce que, je sais pas, t'es dans la tête de littéralement un enfant de CE2, quoi. Et c'est quelque chose qui est quand même plutôt cool et surtout, c'est du coup très imaginatif, même. Bah, typiquement, l'œuf, c'est des œufs à chaque fois, ils sont très colorés, ils cherchent un œuf spécifique qui est tacheté. Et je sais pas, il y a un truc où ils développent vraiment un univers qui, je trouve, marche super bien. Encore une fois, qui est complètement perché, mais il y a des trucs dans des boîtes de nuit, ils jouent avec des lumières. Les personnages sont complètement loufoques, mais super attachants. Et ouais, je trouve que ça marche bien, en fait. J'ai pas trop d'autres choses à dire à part, j'ai passé un super moment. Voilà, j'avais d'autres arguments, je crois, mais je les ai oubliés, donc je vais laisser Arthur en parler.
Moi, je vais être assez court parce que je te rejoins complètement sur ce que tu as dit du film. C'est un peu comme si Mandico avait acheté des scénaristes sur le passage. C'est.
Oh, c'est sale, ça.
J'aime vraiment pas Mandico. Enfin, j'adore l'univers. Mais j'adore les univers de Mandico.
Autour de cette table pour dire que Mandico est un des scénaristes qui fait des films de merde. Je suis tous d'accord, non?
Bah, c'est-à-dire que Mandico, si tu le fais juste réaliser et que tu lui fais écrire ses films, je pense que ça donne des trucs très intéressants.
Les garçons sauvages, ça allait, mais c'était il y a 10 ans, les garçons sauvages.
Non, moi, j'avais vu que After Blue et c'est un trip to crack.
Et Conan.
Non, j'ai pas vu Conan.
Personne n'est allé voir ce film.
Non. Moi, j'ai vu celui où il allait voir Kate Bush.
Je pense qu'il avait 2000 entrées. Hein.
Ouais. En même temps, Mandico, ça fait 3000 entrées. Hein, je pense que ça fait tout à Saint-Germain-des-Prés, à Saint-Michel.
Les Germano-Pratins.
Un des seuls peut-être problèmes que j'ai avec le film, c'est sa photo. Alors, on dit qu'il est shooté en Kodak, je trouve.
Il est pop.
il fait très, très numérique quand même. Hein. Il fait très oui. numérique retaper le film pour ouais. un film qui prétend être en Kodak.
Après, ils ont affiché le logo oui, en ça. Gros. Je pense pas qu'ils aient menti et tout ça. Le souci que j'ai, c'est alors pas tant la photo que la lumière, je le trouve. Enfin, le Kodak a un côté un peu surex parfois et je trouve que c'est vraiment abusé. Enfin, les blancs ressortent beaucoup et c'est une image qui fait faussement féerique. Et là où je trouve le film d'habitude très très fin dans son écriture sur quelle est la part fantastique qu'il met en scène, quelle est la part de réalité. Là où je trouve très fin cette photo faussement film fantastique années 70, je la trouve exagérée. Au-delà de ça, j'aime beaucoup le principe qu'il a de mélanger fantastique et réalité à une manière où on est dans la tête de gosse et comme tu l'as dit Juliette, on ne sait jamais ce qui est imaginé par eux, ce qui est mal compris par eux et ce qui est vrai et que le film et l'intelligence de ne jamais trancher, ça marche très bien. C'est un petit film d'aventure qui fonctionne. Des acteurs qui, alors à part le petit où son jeu est vraiment trop space, sinon les...
Le jeu est particulier, mais une fois que tu t'y habitues, est pas mal. Enfin, je trouve que ça crée quelque chose.
Le plus jeune étant vraiment jeune, tu sens qu'il a du mal, mais sinon en effet, les autres enfants ont une personnalité dans leur jeu que je trouvais assez folle parce que avoir des enfants qui jouent bien, c'est déjà un beau challenge, mais avoir des enfants qui jouent bien un jeu qui est pas courant, c'est vraiment pas mal. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a des acteurs à gueule, et j'adore les acteurs à gueule, enfin ce bûcheron canadien, incroyable, enfin, qui a un sosie de Jeff Bridges, c'est magnifique, quoi. Ce mec est...
J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'était pas du tout un argument, désolé. C'est juste si vous avez vu. C'est Crazy Stupid Love. Si vous avez vu Crazy Stupid Love, il y a la babysitter qui tombe amoureuse du père de Emma Stone dans.
Steve Carell.
Oui, Steve Carell, voilà.
Du office.
Voilà. La babysitter qui tombe amoureuse de Steve Carell joue là la grande méchante du film et.
C'est la gourou.
Si elle.
Bref, moi je vous conseille de le voir. Je sais pas s'il va passer près de chez vous parce que s'il passe au Reflet Médicis, c'est qu'il ne passe nulle part. Mais écoutez, le jour où il.
Après, il est loin, Lucien.
Oui, mais. Sur Apple, je sais pas si toi tu es aussi positif que nous.
Mister. Non, si, j'ai bien aimé. Et un petit point avant que j'enchaîne sur le reste, moi je trouve que la musique est très sympa aussi parce que la musique c'est de l'électro mais très typé, comment dire, film de fantasy des années 70 à petit budget. Avec genre début de synthé, mais ambiance un peu... voilà, et très Mordgradson, très à moitié Plantasia par moment. C'est très drôle, en fait. Et avec tout un tas de petits gags idiots. Par exemple, il y a une scène à la fin où il cuisine sur le thème de Cannibal Holocaust. Et vraiment, j'ai explosé de rire dans la salle, alors que personne n'a rien compris. Du coup, il y avait juste moi qui ai fait « comme ça, à voix haute, dans une salle où il y avait que des vieux et une famille. Ce qui m'a rendu très heureux, c'est la première fois de ma vie que je vois des enfants rentrer dans une salle du Reflet Médicis. Et je pense que... Et vraiment, je me suis dit « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe ?»
Ils ont le droit.
OMG. Et c'est vraiment... Je pense que les gens à l'entrée ont dû faire une crise cardiaque. Enfin, ils ont vu des gosses de moins de 10 ans. Ils se font « Oh putain !» Ils ont juste jeté des bonbons dessus pour les faire partir. Mais du coup, ouais, c'est un film très sympa qui est souvent assez juste, assez malin. Vous l'avez dit, le jeu d'acteur est stupéfiant, les enfants surtout. Et c'est très très rare d'avoir des performances qui sont aussi denses pour des acteurs aussi jeunes. Et j'espère qu'ils auront une carrière autre que des films à minuscule budget tournés potentiellement sur Kodak dans le Wyoming. Parce que, objectivement, ils sont très bons là-dedans. Et. On s'amuse bien, en fait. C'est pas trop prise de tête. C'est un peu long. La vérité, c'est que je pense que c'est un peu long et que c'est un film qui aurait gagné à perdre 10 minutes. Et il y a quelques scènes qui sont un peu longues, même si je trouve la mise en scène plutôt très juste et souvent très bien rythmée. Ça erre un peu la scène dans la boîte de nuit à la fin, par exemple. Autant elle est pleine de bonnes idées, autant genre le gamin déguisé en homme des mers qui est là pendant une demi-seconde. C'est très drôle.
Il est là dans plusieurs plans.
Il est là dans plusieurs plans dans cette scène, mais il est là que dans cette scène.
Oui. Dans la boîte de nuit, tu le vois.
Mais il joue le frère, le réel. Il joue le frère de la méchante dans le film. Il a vraiment l'air d'un demeuré. Il joue un demeuré. Ouais, mais il y a plein d'idées assez marrantes, effectivement. Les deux jumelles qui obéissent sur des paroles secrètes. Enfin, on s'amuse bien. C'est un peu long par moment. Tu l'as dit, je trouve que la lumière est un peu. En même temps, c'est un film avec zéro fric, probablement.
Oui, déjà.
La chute est assez marrante. C'est un bon moment. La vérité, c'est que j'ai passé un meilleur moment que devant Civil War. Bon, le standard était bas, mais donc je peux pas complètement m'en plaindre. J'y suis allé grosso modo avec des préjugés et j'en suis sorti avec un sourire sur le visage. Donc, c'est ce qu'on veut collectivement. Ça aurait pu être une catastrophique truc à la Stranger Things ou Stand By Me version 2.0 à la con ou pire 8 mm de J.J. Abrams. Super 8 de J.J. Abrams, donc ça aurait pu être un film calamiteux, ça ne l'est pas. Je vous le conseille. Allez-y avec vos frères, vos sœurs, vos enfants, vraiment, faites monter le maximum d'enfants au Reflet Médicis, faites-les paniquer, transformez-les en garderie, et genre, faites vraiment des coups de pression, genre, faites monter des enfants sur Apollonia, je veux dire, pour vraiment les confondre, commencer à paniquer, se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y, quoi, mettez des gosses dans cette salle.
Est-ce que je peux rajouter, je peux rajouter juste deux trucs. Moi, c'est un truc, effectivement, quand tu parles des enfants, en fait, c'est un film un peu loufoque, mais tu vois, des enfants peuvent le voir et ça, j'aime bien. Les films qui mettent en scène des enfants pour les enfants et que les adultes peuvent voir aussi, mais je veux dire, enfin, je trouve que ça marche bien et.
Sûr que les films qui mettent en scène des enfants pour les adultes, c'est toujours un peu.
Ouais, c'est blague va être coupée au montage. Non, c'est parce qu'elle était très.
Elle était drôle, on regarde.
Mais et le deuxième truc que je voulais dire, c'est aussi que vous le dites. Moi, je trouve que l'image, oui, ça peut être un peu cliché, mais je trouve que ça va avec le film qui est un peu loufoque. Je trouve qu'en fait, il joue bien avec les époques surtout parce que il se revendique effectivement. Il y a un truc un peu années 70 dans à peu près tout en fait. Et pourtant, il essaie pas de se mettre dans un espèce de vieux passé.
Ça se passe de nos jours
parce qu'il y a des smartphones, on voit qu'ils utilisent des applications, ils veulent jouer aux jeux vidéo. Et en même temps, ces technologies-là, elles prennent pas la place comme genre, ah, les enfants, ils jouent aux jeux vidéo, ils deviennent violents, et c'est vraiment, enfin, bref, vous voyez le truc où, enfin, je sais pas, je trouve que le rapport à la temporalité est très bien trouvé. On sait qu'on est dans une certaine époque et pourtant, ça reste très très évocateur et je trouve que là, c'est super bien travaillé alors que pareil, il y avait moyen de faire des trucs plutôt mauvais. Donc voilà.
Ouais, bah moi écoutez, sur ce, moi je termine juste comme tu as dit Paul, comme tu l'as dit aussi Juliette, moi je suis très content que un film qui singe un peu le style des années 70-80 ne soit pas Ghostbuster Goonies années 64. Voilà, qui quitte un peu ça et qui au contraire est justement un vibrant hommage au film de fantasy des années 70 à petit budget. Donc il en reprend de toute façon, on l'a dit, sa photo mais également sa narration, notamment cette séquence dans une boîte de nuit qui est vraiment à noter.
Avec l'enfant triton,
Navi, tout ce que vous voulez. Votre référence à vous peut être plaquée sur ce gamin.
La scène de danse
est incroyable.
Ouais, qui est vraiment
très typé aussi.
Puis même les quelques décors parfois. Bon bref, il y a tout un truc d'une mythologie en fait du vieux film de SF exploitation années 60-70 qui se retrouve. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir et qui est pas du tout singé méchamment, mais au contraire vu avec beaucoup de tendresse et même plutôt bien réactualisé. Sur ce, nous allons en finir. Il fait actuellement 45 degrés dans la pièce, donc c'est une petite libération pour nous de terminer. Bref, nous vous souhaitons, je sais pas ce qu'on peut vous souhaiter, tout ce que vous voulez, allez au Reflet Médicis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, regardez des films et
au revoir.